chercher la dernière mode, genre vieux la télé. Comment ton cerveau, cervelé, médite, médiabilité.
Tout le monde. Enfin, Spectaculaire reprend, 14h04, ce mercredi 19 septembre 2018. Christophe Rollin au micro, Gérald est là, ainsi que Franck-Emmanuel Comte pour cette émission numéro 172. Enfin, après cette courte, hein, Gérald, pause estivale, nous reprenons nos quartiers. Alors, il est possible de faire une pause mercredi 26, semaine prochaine, septembre. Peut-être qu'on reprendra mieux le 3 octobre, jusqu'à la fin du mois de juin 2019, peut-être même début juillet. Notre invité, Franck-Emmanuel Comte, directeur musical, directeur artistique du concert de l'Hôtel Dieu, ensemble de renommée internationale, ensemble d'une qualité assez stupéfiante, assez étonnante. Il va y avoir un grand nombre de concerts cette année, donc notre invité va présenter ces différents concerts. Ça va d'ailleurs commencer au mois d'octobre, là, tout de suite, avec du Bach. Et bien voilà, Gérald me l'a dit, parlons peu, parlons moins, donc écoutons tout de suite un court extrait de Bach. L'enregistrement est assuré par le concert de l'Hôtel Dieu lui-même, donc écoutons cet extrait pour introduire toute cette émission jusqu'à 15h de présentation de la saison du concert de l'Hôtel Dieu, 26e, 27e saison, je ne sais plus, nous questionnerons notre invité. Vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien vous le faites également, et c'est une très bonne chose, sur internet, radiocanu.org.
Chères auditrices, chers auditeurs, on écoute le Magnificat de Bach pour commencer la saison. Donc, des concerts de l'Hôtel Dieu. Quelle est la couleur de cette saison? Avec un titre pareil, un très très beau fascicule, un très beau livre, beau design, avec en lettres d'argent le mot alchimie.
Et ben voilà, tout est dit, alchimie. Donc en fait, on joue un peu les apprentis sorciers qui consiste à donc à associer tout un travail scientifique sur les manuscrits de la bibliothèque municipale de Lyon, sur le patrimoine lyonnais baroque, mais aussi d'associer tout ce travail sur le répertoire baroque à des formes plus contemporaines de spectacles vivants, à d'autres disciplines, la danse, le théâtre, les arts numériques, et donc de réaliser cette alchimie des époques et des arts qui sont pour moi un argument assez important pour faire vivre cette musique dite ancienne que moi je trouve très actuelle.
Auditeurs, vous l'aurez constaté, on commence très vite, mais parce que Franck-Emmanuel Comte, nous le connaissons, il est déjà passé émission numéro 4. C'est assez ancien, le mercredi 3 juin 2013. Il est également revenu, émission 69, le mercredi 12 juin 2015. Et là, à présent, nous commençons tout de suite, parce que si vous souhaitez un portrait de notre invité, si vous souhaitez également en savoir davantage sur la musique baroque, puisque le début de l'émission avait été très très bon, la 69, réécoutez auditeurs, je vous en prie, je remettrai les liens. Il y avait Gérald, une belle... Enfin, des concepts, conceptualisation. L'année 1707 avait été très importante pour cette programmation 2015-16, je suppose. Donc voilà, auditeurs, on commence très vite parce que nous connaissons Franck-Emmanuel Comte et c'est très bien. Donc vous êtes déjà en train de revenir un peu sur un concert passé, c'est ça? Là, on se proposait d'évoquer la saison à venir. Folia avec moi.
Oui, ouais, Folia, c'était le point d'orgue, en fait, le final de la saison 25, donc en juin la dernière, aux Nuits de Fourvière. Mais donc pas de Folia pour cette 26e saison, mais Folia reviendra à Lyon, je l'espère, pour la saison suivante.
Peut-être deux mots pour dire un peu ce que c'était.
Alors Folia, c'est un spectacle de Mourad Merzouki, qui est en train de faire un fureur en ce moment avec son spectacle Vertical à la Biennale de la Danse. Et Folia, c'était son opus précédent.
Représentons-le un instant.
Oui, alors Folia, c'est 17 danseurs hip-hop et classique danse, aussi. Ouais. Et 8 instrumentistes, danseurs, chanteurs baroques sur scène, dont moi. Et c'est ce mélange entre le baroque et le hip-hop que Mourad a réalisé pour à la demande des Nuits de Fourvière en ouverture. Et donc c'est un spectacle assez inclassable, enfin c'est déjà un spectacle chorégraphique, mais assez magique et poétique, et qui nous a tous emmenés très très loin, je pense, les acteurs et spectateurs.
Alors bien entendu, c'est du spectacle vivant, mais auditeurs, si vous l'avez manqué, je vous renvoie au site Arte Replay, qui le donne encore quelques temps. Je crois que c'est limité. Hein, encore
non, ça dure un an, donc on a encore au moins 8-9 mois pour le voir.
Et alors, pour reprendre votre mot, j'ai vu un passage, on voit Heather Newhouse, effectivement, qui est transportée littéralement, avec une belle tenue rouge qu'elle a. Elle est des danseurs, la grippe, la porte, et d'un point à un autre de la scène. C'est vrai que visuellement, c'est assez stupéfiant.
Ouais.
La musique, la danse sur scène. Donc Folia, c'était la saison précédente qui est terminée. Je vous en prie. Donc maintenant, on est peut-être tout disposé à parcourir la saison à venir. Vous étiez sur scène déjà, enfin, petite scène. Enfin, quoique non, une belle scène, la chapelle de l'Hôtel Dieu. Répétition publique ce dimanche passé, dimanche 16 décembre, journée du patrimoine.
Ouais.
Peut-être pourriez-vous parler de cette répétition. Ce sont donc des concerts à venir. La chef Mariana Delgadillo Espinosa, déjà passée par Radio Canu en octobre dernier. Et puis le lieu.
Le lieu. C'est le lieu de naissance du concert à l'Hôtel Dieu, il y a 25 ans, un peu plus maintenant. Donc oui, on s'attache à redonner chaque année des concerts à la Chapelle de la Trinité. Donc on reverse une partie de la billetterie au profit de la rénovation de cette chapelle, parce que l'ensemble du bâtiment de l'Hôtel Dieu, ça n'est échappé à aucun Lyonnais, a subi un lifting assez considérable. Mais la chapelle est un petit peu en retard. Donc voilà, il faut aider à la rénovation de cette chapelle, c'est important. Nous, on y sera cette année en concert en novembre. Mais auparavant, en octobre, on sera dans un autre très beau lieu du patrimoine baroque lyonnais, qui est l'église Saint-Bruno, à la Croix-Rousse, qui, elle, est aussi en cours de rénovation. Il y a également un programme de rénovation, la rénovation est bien avancée, elle est magnifique, cette église, et nous donnerons effectivement des exemples, des pièces vocales et instrumentales de Jean-Sébastien Bach, d'où notre premier extrait musical avec le Magnificat. Alors, des pièces de Bach, mais aussi de Buxtehude, parce que ce concert met en scène la rencontre de Bach et Buxtehude. Alors, Bach, à l'âge de 20 ans, a fait le chemin de Arnstadt à Lübeck à pied. Je ne sais pas combien ça fait, mais au moins 150 km, donc une petite balade, quoi. Et il est allé écouter le vieux Buxtehude, qui lui avait déjà 65-6 ans et qui était 68 ans, me dit-on. Oh là. Et donc c'était un vieux monsieur, mais un vieux maître très très reconnu dans l'Allemagne, et Bach adorait Buxtehude. Donc il est allé l'écouter pendant 2 mois, tous les jours, il était en dessous de la tribune d'orgue. Et voilà, cette rencontre a durablement impacté, influencé son style et sa jeune carrière. Et nous avons voulu créer ce concert, créer cette rencontre, presque 3 siècles après, en associant des musiques de Bach et de Buxtehude à la chapelle Saint-Bruno. C'est mi-octobre, c'est le 14 ou le 15 octobre, quelque chose comme ça.
Dimanche 14, je l'ai sous les yeux. Voilà. Il manque peut-être l'horaire. Ce qui est intéressant, c'est que certains concerts sont donnés sur 2 horaires. Par exemple, vous évoquiez la chapelle de l'Hôtel Dieu. Le concert de Pergolèse, un autre, Stabat Mater, sera donné le dimanche 18 novembre à 15h, puis à 18h. À défaut de plusieurs dates, parfois c'est ce que vous pouvez faire
Oui, alors, le 14 octobre, il y a 2 horaires, mais en fait là, il y a 2 programmes différents.
Ah.
Donc c'est pas 2 fois la même chose. Hein. Donc il y a déjà un concert donné par les chœurs du concert L'Hôtel Dieu, qui s'intitule Bach en famille. Donc là, on fera des motets de Bach, mais aussi de la famille Bach. Alors pas ses fils, qui sont bien connus, mais plutôt ses aïeuls, oncles et cousins. Voilà, un programme de musique sacrée, chœur et instruments. Et puis ensuite, il y aura le concert avec les deux solistes et le petit orchestre autour de Bach et Buxtehude, le concert dont je parlais à l'instant.
Quelques mots peut-être sur cette chef, je le disais bien sur le site, ouais. Elle est bien nommée avec CH, l'orthographe CH2FE, Mariana Delgadillo Espinosa. C'est une promotion, je crois qu'en octobre dernier, Gérald, quand nous la recevions, elle n'avait pas encore eu ce titre, cela s'est fait en novembre ou décembre, me semble-t-il. Directrice des chœurs.
Oui, elle est chef des chœurs, donc moi je suis directeur artistique de la structure, mais elle s'occupe plus particulièrement des choristes. C'est elle qui prépare les choristes pour les concerts chœurs-orchestres et qui les dirige lorsqu'ils sont en petit comité, j'allais dire. Voilà, donc elle travaille avec nous depuis décembre. Elle a remplacé Hugo Peraldo, qui est maintenant chef assistant à l'Opéra de Lyon et qui a été chef des chœurs pendant, je crois, au moins 9 ans au concert de l'Hôtel-Dieu.
Et les voix principales seront assurées par des lauréats d'un concours de chant baroque de Froville, c'est ça?
Alors, pour le concert de 18h, oui, les solistes sont des lauréats du concours de chant baroque international de Froville, qui a lieu d'ailleurs la semaine prochaine. Je vais passer une semaine à Lunéville et Froville en Lorraine. Et chaque année, on engage les lauréats, qui sont les stars de demain, si vous voulez, c'est un niveau international. Enfin, tout au moins largement européen, et puis les lauréats sont engagés par convention pour au moins une production par le concert de l'Hôtel Dieu l'année suivante. Voilà. Donc là, il y a un Lyonnais, c'est Romain Beauclair, baryton bien connu à Lyon, et puis néanmoins encore très jeune, et puis une soprano parisienne qui s'appelle Myriam Arbouze.
Alors, nous pouvons continuer à parcourir cette programmation, mais nous étions proposé ça, hein, Gérald, hors antenne, c'est de, puisque nous avons, il faut remercier le service de communication de l'Hôtel Dieu. Merci beaucoup Mathilde, nous avons plusieurs extraits et enfin voilà, peut-être qu'on peut écouter d'autres de ces extraits. Je vous indiquais que nous avons j'ai donc toute une belle liste les intitulés. J'ai le Quando Corpus, Donna Isabella, le Facut Ardeat également, j'ai aussi ce fameux Baza, c'est Baza. Ça je crois
on
Baza.
Écoutera peut-être Baza plus tard parce que c'est un concert de février.
Donc alors sur quoi partons-nous?
Par exemple Quando Corpus.
Alors je remets la main dessus. Quando Corpus, voilà, je l'ai. Je crois que moi j'avais un faible pour le Donna Isabella, mais je me plie tout à fait à vous. Il y a une belle guitare pour le. Mais je crois que le Quando Corpus est également très émouvant.
Oui.
Ils ont tous les deux donné lieu à un enregistrement, c'est
oui,
ça
oui.
Qui est encore disponible parce que certains.
Ah non, qui sort en novembre. Il va sortir.
Ah, je confonds.
Justement, ça sera notre actualité de novembre.
Ah, parce que moi je pensais à l'autre enregistrement qui était le Stabat Mater et les influences et la musique napolitaine.
Oui, alors c'est bien celui-là, mais c'était le précédent était un enregistrement un peu privé, on va dire. Alors que ça, c'est une édition publique officielle.
Très bien. 14h16, on est parti jusqu'à 15h. Donc, écoute de différents extraits qui sont tous produits, enregistrés par le concert de l'Hôtel Dieu. Voilà, on n'écoute pas Daniel Barenboim à la direction de... Non, rien de rien. Eh bien, écoutons, voilà. C'est point de mot. Quando Corpus, concert de l'Hôtel Dieu, Franck-Emmanuel Comte à la direction, Heather Newhouse, c'est tout.
Thank you.
Oui. On écoutait quoi? Rabelaise. Stabat Mater.
Voilà.
Quel passage. Très célèbre d'ailleurs, on reconnaît vite hein, la mélodie.
Quando Corpus, c'est presque la fin du Stabat Mater.
Alors, cette partition inédite qui appartient à la ville de Lyon, je ne sais même pas, elle est au silo, à la Part-Dieu, dans le coin des manuscrits anciens.
C'est ça.
Qui date de quand ce manuscrit?
Aux alentours de 1740.
Mmh. Donc ouais. On a une version, et ce qui est l'intérêt de cette musique, c'est que ça va être à la fois une conférence musicale qui sera donnée à la bibliothèque de la Part-Dieu le vendredi 16 novembre.
Oui.
Voilà, avec Monsieur Guerrero au violon et avec votre présence à vous, Monsieur Franck-Emmanuel Comte. Présentation et clavecin, où j'imagine que ça sera ponctué d'extraits.
On va illustrer, oui.
Une exégèse du morceau. Et il y aura le concert le dimanche suivant, le 18 novembre, à 15h et 18h, donc deux fois, et là, à la chapelle de l'Hôtel Dieu.
Oui.
Alors, il est mentionné qu'il y aura une version inédite.
Oui, mais c'est ça. Mais 1740, c'est plus ou moins quand même contemporain, non? Enfin, c'est...
Ah oui, c'était fait, je ne sais pas, on ne sait pas trop, une dizaine d'années après l'écriture de l'œuvre. Et on part un anonyme lyonnais, donc on sait peu de choses.
Une retranscription.
Oui, un arrangement en fait. C'est-à-dire qu'il a travaillé surtout au niveau des voix, parce que Pergolèse a composé l'œuvre à Naples pour des castrats, où c'était encore vraiment la mode. Mmh. À Lyon, il n'y avait plus de castrats dans les années 1730-40. Donc en fait, quelqu'un à Lyon l'a arrangé pour une voix de baryton et de soprano, mais surtout il a rajouté trois autres voix. Donc on a cinq solistes dans cette version et non deux. Mmh. Ce qui donne une ampleur théâtrale, dramatique, rhétorique plus intéressante et qui donne une nouvelle couleur à une œuvre qui est tellement connue. Donc c'est intéressant d'écouter avec un nouvel angle.
Une immersion envoûtante.
Mais alors, moi j'ai deux questions. Pourquoi cette œuvre peut-elle exister? Forcément, cela a été commandité. Enfin, du moins,
oui.
Tout est souvent question d'argent, hélas. Et ce n'est pas comme ça un amateur éclairé qui se dit tiens, je vais
anonyme, en plus, c'est anonyme.
Oui, on ne sait pas. Si, c'est peut-être un amateur éclairé. Enfin, oui. Le travail est bien fait, mais bon, il est un amateur de très bon niveau aussi. Donc, moi, ce que je devine, c'est qu'à cette époque-là, à Lyon, il y avait un petit peu l'essor des académies, c'est-à-dire l'académie, il y avait l'académie des Beaux-Arts, l'académie des Jacobins, qui sont un peu l'ancêtre de l'Orchestre National de Lyon. C'est les premières institutions musicales en dehors de l'opéra.
Avant Witkowski, oui.
Voilà, donc ces académies réunissaient des professionnels et des amateurs, des chanteurs, des instrumentistes, et ces gens-là jouaient la musique du moment, la musique contemporaine, et le Stabat Mater était un tube, y compris à Lyon à ce moment-là. Donc ils ont voulu sans doute le jouer en concert pour eux et ils ont fait l'arrangement qui correspondait à leur formation. En fait.
Et voilà. Alors, Beaumarchais n'était pas encore passé par là, pas vraiment de droit d'auteur ou de choses comme ça.
Pas de droit d'auteur, on faisait ce qu'on voulait.
Pour Pergolèse. Et vous, quand vous êtes. Comment est-ce que concrètement vous tombez dessus? Ce n'était même pas l'autre question que je t'ai posée. Comment est-ce que vous arrivez? Comment le manuscrit vous parvient-il dans les mains? C'est
l'idée de le réinterpréter.
Forcément, mais comment vous les rencontrez, ces manuscrits?
J'épluche les catalogues des bibliothèques, entre autres celles de Lyon, mais pas uniquement celles d'Europe en général.
Wow.
Et j'essaye de voir s'il y a des pistes pour creuser, s'il y a des partition, enfin, j'essaie de trouver des indices pour rentrer un peu dans un manuscrit et voir ce qu'on peut en faire. Donc, la plupart des pistes sont des fausses pistes. 9 fois sur 10, je perds mon temps à lire des manuscrits que je ne joue jamais. Ça fait rien, ça fait partie du jeu. Et là, pour le Stabat Mater, la version est intéressante. Après, pour le public, c'est intéressant aussi, parce que c'est une œuvre très connue. Donc, je savais qu'en faisant ce travail-là, j'avais quand même des chances de pouvoir faire un disque et de le donner en concert et d'avoir du monde dans la salle, ce qui n'est pas totalement méprisable.
C'est plutôt bien, mais il paraît même que c'est déjà complet, non, tu disais?
Mais voilà, c'est ça, auditeur, j'hésitais à le dire. Mais c'est toujours le truc, existe-t-il un marché noir? C'est certainement possible. Mais enfin, voilà, et le site lui-même...
À 15h et à 18h.
Les deux horaires, c'est ce que j'indiquais, enfin, du moins sur le blog se trouve tous les liens, et si vous rendez sur l'agenda seulement, il est déjà donc indiqué complet, mais peut-être des places pourraient-elles se libérer.
Au dernier moment, il y en a.
Voilà, moi je pense que je vais essayer. Donc voilà, c'était l'autre question, parce qu'attention Gérald Mince, il me semble avoir peut-être coupé ta question, qui est pourquoi vouloir faire cela? À la lecture, je suppose, vous devinez, vous repérez un intérêt. Enfin, mon autre question, c'est donc, ça va être enregistré, c'est ça?
Alors oui, c'est enregistré, donc le disque sort en même temps, évidemment, parce qu'on donne... Alors, il sort à Londres, le disque, parce que le lendemain de Lyon, on joue à Londres, mais à Londres, ça sera aussi en France aussi. Je pense que le disque sera diffusé partout. En tous les cas, nous, on en aura.
Il existe déjà ou c'est...
Non, il est actuellement à l'imprimeur, là.
Je veux dire, ce sera une prise de concert ou c'est... Non, enfin,
alors, c'est une prise live d'un concert qui était enregistré il y a déjà 2 ans. Hein, donc, musicalement, c'est prêt. C'est juste un travail d'édition actuellement.
Vous l'avez déjà joué à différentes occasions?
Oui, on l'a déjà joué, oui, tout à fait.
Et ça marche? Le public était...
Ah oui, alors, oui, ça marche très, 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 très bien.
Ouais, bon, bah, voilà,
alors, c'est d'autant c'est plus, pour faire le pont avec l'extrait suivant, d'autant plus que dans ce Stabat, je ne fais pas que faire le manuscrit de Lyon, c'est que j'ajoute des polyphonies traditionnelles, des tarentelles et des chansons napolitaines de l'époque, de Pergolèse. Pour le resituer un petit peu dans son contexte napolitain, où profane et sacré se mélangent pendant la Semaine Sainte, où populaire et musique savante s'entrecroisent. C'est encore le cas actuellement, c'est une forme de syncrétisme qui est très, très, très étonnant, qui nous paraît nous très archaïque lorsqu'on va à Naples, mais en tous les cas très vivant, très sincère. Et j'ai voulu, à travers ce mélange, cette association du Stabat, des versets du Stabat avec la musique populaire, improvisée, rendre ce syncrétisme et cette vie, cette foi, cette ferveur qu'on trouve encore de nos jours à Naples. Donc voilà, donc je pense que là vous avez prévu de passer justement, non pas une polyphonie, mais une chanson napolitaine qui s'intègre, qui se superpose à un Miserere. Voilà, c'est un bon exemple de ce syncrétisme.
Il n'y aura pas la Cicerenella, ce sera...
Peut-être bien en fin.
Peut-être en toute fin.
On passe le morceau. Vous avez donc été obligé de tout réécrire aussi, quoi. Oui. Il y a le partition, oui, ancien, oui, qui était déjà une réécriture avec 5 voix, et vous-même passez derrière en rajoutant des chansons.
Oui, parce que oui, tout ça, c'est de la tradition orale, il n'y a pas de partition.
Ah oui, en plus.
Thank you.
on écoutait une chanson napolitaine de tradition orale que notre invité, M. Franck-Emmanuel Conte, ici présent, donc, a réussi à intégrer à une ancienne partition de la bibliothèque de Lyon.
Nomme-la cette chanson.
J'ai oublié, Donna Isabella. Très, très, très belle, hein. C'est vrai qu'elle était originale.
Ouais, c'est un peu douloureux. Alors, Donna Isabella, c'est une reine de Naples que les Espagnols ont condamné à mort, enfin les occupants espagnols, parce que cette époque-là, Naples est sous domination espagnole, ils l'ont fait disparaître dans la baie de Naples, enfin ils l'ont noyée, quoi, parce qu'elle était, elle avait des velléités d'indépendance, donc voilà, donc c'est une chanson très napolitaine et qui représente beaucoup de choses pour les Napolitains, c'est un côté un peu nationaliste, quoi.
D'accord.
Voilà.
Concert donné tout d'abord à une sorte de prélude. Une conférence musicale qui a lieu le vendredi 16 novembre à la bibliothèque de la Part-Dieu. L'horaire est-il indiqué ? Je crois que c'est 18h, c'est ça, il me semble. Si, c'est précisé, 18h30 même. Et puis deux jours après, le dimanche, concert donné sur deux horaires, 15h-18h. Renseignez-vous.
Si vous trouvez encore des places.
Renseignez-vous près de la
J'en profite pour préciser que le festival, donc,
le concert
des concerts de l'Hôtel Dieu Alchimie cette année, 25e année ou 26e ?
26e.
Donc il y a des places à 10 euros, hein, tarif préférentiel pour tous les jeunes de moins de 26 ans, les étudiants, mais aussi pour les demandeurs d'emploi et bénéficiaires de AAH, RSA, ASS. On peut payer en espèces, en carte bancaire, en passe région Auvergne-Rhône-Alpes et en chèque culture, groupe chèque déjeuner. C'est intéressant.
Bah, mais voilà. si, toujours des raisons, des aspects pratiques également. On parcourt un peu, on continue.
Alors octobre, oui, il y a une grande date, là on est en novembre. Bon, il y aura les inévitables concerts de Noël de décembre.
Oui.
Alors cette fois, des compositeurs français qui sont largement inspirés de chants populaires de Noël.
Oui. Voilà. Messe de minuit de Charpentier.
Oui, il y aura aussi Sabi et Campra.
Alors ça, c'est des manuscrits non pas de Lyon, mais des manuscrits de notre région, puisque c'est des manuscrits de la cathédrale du Puy-en-Velay que l'on a ressuscité pour l'occasion. Un grand motet de Campra et d'un maître de chapelle régional qui s'appelle Sabi. Voilà, effectivement. Donc c'est à découvrir pour Noël, avec le concert de l'Hôtel Dieu, mais aussi les enfants de la maîtrise du Puy, une maîtrise d'enfants, donc.
Et les solistes sont en cours de distribution. Ce sera le mardi 11 décembre. À 20h, au Grand Temple, quai Victor Augagneur.
Et puis on poursuit.
Et en février, alors...
Janvier, relâche peut-être, ou alors vous êtes en tournée, je crois.
Janvier, je ne vois rien.
Janvier, oui, on est en
tournée. Repos.
Ah, non,
c'est ailleurs.
C'est pas repos.
Les auditeurs, voilà, peuvent se rendre à d'autres endroits, mais ils cravachent toute l'année. En février...
Alors... Oui, parce qu'ils se déplacent, je vois, des fois c'est à Orléans, des fois c'est...
Ah bah à Londres, nous avons entendu,
oui,
il y a quelques instants.
Oui, plein d'endroits différents, les concerts sont redonnés dans d'autres villes. Donc on passe tout de suite à février, avec un spectacle très atypique, qui s'appelle Marco Polo, qui mélange des musiques baroques italiennes avec des musiques persanes, du slam et des dessins projetés, un travail plastique de projection, qui propose un voyage onirique et poétique sur les pas de Marco Polo, marchand vénitien célèbre pour ses voyages en Orient. Voilà, on aura des percussions, toujours donc des instrumentistes baroques, Monsieur Le Guerne à la viole de gambe, vielle, Théor Bellut, musique,
ouais.
À la direction Franck-Emmanuel Conte, orgue et direction... Et les dessins, toute la partie vidéo plastique projetée sera assurée par Poisson Berni.
Et puis également l'édition d'un disque qui est prévu, c'est ça, mais
n'existe pas. Et je voyais le slam,
oui,
Cocteau Motlotov, et Abassi au tar et au chant. Et voilà. Brûlait aux percussions, voilà, c'est le côté musique.
Nous, on a bien lu.
Tout ça, c'est des Croix-Rousiens. Hein. Cocteau Molotov, de son vrai nom, c'est Lionel Lerch. Voilà, on est vraiment dans la Croix-Rousse, là.
Donc, ils font la fête de la musique, des fois, on les a croisés chanter.
Ce CD existe-t-il déjà ?
Il existe déjà.
C'est un programme que
vous avez... Il est sorti en début 18, il existe déjà, mais on fait maintenant la tournée. À Lyon, entre autres, mais aussi à Lisieux, je crois, puis un peu partout en France.
Et donc, sur scène, c'est un réel plaisir de donner ce type de concert, parce que c'est un peu différent, c'est aussi comme Folia que nous évoquions tout à l'heure.
Voilà, donc c'est plutôt dans le genre Folia, hein, c'est-à-dire interdisciplinaire, un peu plus contemporain à l'esthétique,
crossover,
etc.
Je crois.
Crossover,
mélange des genres.
C'est un mot un peu commercial, mais c'est ça, c'est quand même une rencontre, un peu, une création un peu interculturelle, voilà, entre Orient et Occident. Et qui pose la question de l'interculturalité, du dialogue entre cultures, entre religions, de l'écoute de l'autre, enfin des choses un peu brûlantes, quoi.
Dans la lignée des albums mythiques qui avaient été faits avec Bach et Lambaréné, et puis Mozart l'Égyptien.
Oui, on peut le voir comme ça, mais sauf que là, il y a une dimension poétique et littéraire avec le slam, et avec les écrits de Marco Polo, parce qu'en fait, Lionel slam sur le livre des merveilles de Marco Polo, hein, qui est un...
Le devisement
du monde. Qui est un guide du retard de l'Orient, mais...
Voilà.
De 14e siècle. Donc il est un peu daté, hein, faut voir la mise à jour plutôt, mais en tous les cas, déjà, Marco Polo se posait la question de la difficulté à se comprendre entre musulmans et chrétiens, entre Orient orientaux et occidentaux, des valeurs culturelles et de la question de l'intégrisme, en fait. Voilà. Mmh. Et c'est déjà très présent dans ses écrits. Mmh. Donc nous, on s'empare de ces thématiques-là pour en faire quelque chose, non pas de politique, mais plutôt poétique et onirique. Mais enfin, c'est évoqué à travers le slam, à travers la création numérique qui est sous forme de dessin projeté en même temps que le concert. Donc ça donne quelque chose d'assez atypique, mais c'est un moment un petit peu hors du temps.
Oui, on va pouvoir peut-être s'en rendre compte, parce que je vous remercie, et c'est toujours très bien, Franck-Emmanuel Comte, de chercher à caractériser quelque chose. C'est ce que nous tentons de faire, Gérald et moi également, mais tout de même, hein, le spectacle, ce qu'on appelle le spectacle vivant, les arts vivants, et il faut y aller. Ou alors, à défaut, il faut l'entendre. J'ai un petit extrait ici, allez. Baza, je crois. Franck-Emmanuel Comte, c'est ça? C'est
oui,
un
alors,
poème.
C'est un poème perse que nous avons réécrit à partir d'une musique italienne du début du XVIIe siècle qui s'appelle, c'est une toccata, l'arpeggiata, sur une musique d'un théorbiste autrichien, Kapsberger. Ça peut paraître obscur, mais vous allez voir, ça parle. Bien.
Il y a aussi Frescobaldi, Landi.
Voilà, tout ça, des Vénitiens du XVIIe.
Il est 14h30, bien passé, 14h37, vous êtes toujours sur Radio Canut. Je tiens à le dire aujourd'hui, Gérald, je ne le fais pas, je crois, très souvent, mais là, quand même, vu le type de musique qu'on écoute aujourd'hui, ça va être assez différent quand même de Donna Isabella et de ce qu'on a pu entendre depuis le début, notamment du Bach, mais c'est... voilà, c'est, ça fait voyager. Une voix grave, hein, je crois, une voix masculine qui chante. Mince, c'est moi qui introduis ce morceau, je ne voulais pas le faire.
Ça montre la variété de la programmation et l'alchimie qui s'y déroule.
شکستی بازا با فریادا از عشق با فریادا از عشق و با فریادا کارم به یکی طرف نگاه داد من شکسته دادا گرداد من شکسته گرداد من شکسته دادا دادا گبر و بت پرستی بازا این درگه ما و درگه نو امیدی نیست صد بار اگر تو بشکستی بازا فریادام از عشق با فریادام از عشق و با فریادام کارم به یکی طرف نگار افتادم گرداد من شکست دام دام دادم برنمنو عشق هرچه بابا دام بابا
bien sûr Radio Canu 102.2, c'est ça ?
De la bande FM lyonnaise.
Voilà, et on vient d'écouter la magnifique voix de Navid Abbassi, qui est aussi habitant des pentes de la Brousse, hein. En plus de joueur de tar. Le tar, c'est la percussion large. Là.
Alors, non, c'est un instrument...
Ah, le tar, d'accord. Je comprends que Zarbin.
Voilà, je comprends que Zarbin. Hein.
Alors, corde pincée, et il est aussi chanteur, il a une voix magnifique.
Baza.
Donc ce sera, c'est un extrait, puisque le disque existe déjà ou va sortir ?
Oui, il existe. Voilà.
Le disque existe, ce sera le superbe spectacle de février 2019, donné par les concerts de l'Hôtel Dieu, qui sera donné au Théâtre Sainte-Hélène, rue Sainte-Hélène.
Et puis il y a toute
à ne pas rater, puisque ça mélange la musique baroque avec tout l'environnement culturel de Marco Polo, de l'ancienne Perse, autour du métissage, de l'interculturalité, etc. Ça peut être très très bien. Il y aura aussi des scolaires qui vont participer, des ateliers, etc. Auprès des scolaires. Et la tournée, le spectacle va partir aussi en Limousin, puisqu'il y a une coproduction avec le festival 10-01 notes en Limousin.
C'est ça.
On poursuit, Gérard ?
On va poursuivre, alors on va en mars. En mars, il y aura un ensemble, j'imagine, connu, italien, l'Astré.
L'Astré, oui, ce sont des gens de Turin que nous invitons.
Ça sera joué encore au temple Lanterne, cette fois le petit temple protestant de la rue Lanterne, le jeudi 21 mars à 20h. Donc c'est à l'occasion de la journée européenne de la musique ancienne. Le concert de l'Hôtel Dieu invite l'Astré à se produire à Lyon. L'ensemble baroque italien interprète quelques-unes des cantates profanes et sonates les plus théâtrales et virtuoses de Vivaldi. Un programme... à la fois classique, mais peut-être des curiosités.
C'est
une manière d'interpréter qui sera originale et forte.
Eh ben, j'espère, c'est pas moi, donc je peux pas trop en parler, mais j'espère qu'ils seront bons. Non, j'ai pas aucun doute.
On a l'extrait, là ?
Cela fonctionne un peu depuis quelques temps, les invitations lancées à d'autres, d'autres ensembles.
Oui, on a un réseau européen d'ensembles avec lequel on collabore. L'année dernière, c'était des Lettons de Riga, et cette année, c'est des Italiens de Turin.
Donc en mars,
voilà.
Printemps, on passe en avril, et en avril... Handel vs Porpora, ça va être chaud, qui va être knockout, le premier, on ne sait pas encore. Aux alentours de 1730 à Londres, une guerre sans merci oppose Handel et Porpora, dont je découvre le nom à l'instant. Mais c'est à une rencontre pacifique autour de leurs plus grands airs lyriques que nous vous invitons, en compagnie de la talentueuse mezzo-soprano
Giuseppina Bridelli.
Il y a un nouveau disque qui sortira en mars 2019. Ouais. Voilà, donc Bridelli, mezzo-soprano, le concert de l'Hôtel Dieu, et Franco Emmanuel Comte au clavecin et direction, le dimanche 7 avril à 18h, à la salle Molière, cette fois-ci, Quai de Bondy.
Voilà, donc la retour au baroque avec ce projet-là.
Une belle acoustique aussi, il faut bien le dire.
Oui, retour au baroque pur, avec des musiques effectivement inédites, des années 1730 à Londres.
C'est un peu la fin du baroque là, non, déjà ?
Ah oui, on s'achemine vers la fin. Donc il y a ces deux compositeurs qui étaient sans doute les deux les plus connus en Europe, hein. Porpora, on l'a un peu oublié, mais c'était le maître des castrats, c'était le professeur de Farinelli, etc.
Bon,
oui, voilà, donc c'est une star à l'époque. Okay. Et ils se font un peu la guerre à Londres. Un est employé par le théâtre de la noblesse, l'autre par le théâtre du roi. Mmh. Et ils se font assaut de grandes œuvres, et puis ils invitent surtout les grandes stars européennes, dont Farinelli, mais les autres castrats de l'époque, pour essayer de se piquer les uns et les autres, les clients, en fait. Voilà.
Et déjà à l'époque.
Donc c'était vraiment une concurrence acharnée. D'ailleurs, les deux ont fini ruinés hein, à cause de cette guerre où les cachets des stars les ont un petit peu laissés sur le carreau. Et donc, Mais en même temps, ça les a poussés à composer leur meilleure musique, en fait. Donc,
l'émulation.
Voilà, l'émulation.
La battle.
La battle.
Comme on fait Vinci et Michel-Ange à l'époque avec la Tempéra.
D'ailleurs, le disque
a pas marché.
D'ailleurs,
Vinci, d'ailleurs.
Le disque s'appelle The Battle of Giants.
Exactement.
Voilà, c'est
une vraie battle.
C'est une battle, tout à fait. Exactement. Avec des musiques de Handel et Porpora, puis un orchestre qui fait l'arbitre, là.
Alors, attention à Gérald. Voilà, c'est toujours un peu problématique quand je peux lancer quelques qualificatifs. L'ensemble de l'Hôtel Dieu, d'une qualité exceptionnelle, remarquable, européen. Bah, en fait, oui, puisque le concert est donné. Tu as indiqué oui. une date, Gérald.
Salle Molière, Quai Bondy.
Le 7 avril, c'est ça?
Oui. Le 7 avril à 18h.
Et puis les données le lendemain, le 8 avril, mais alors là, il faudra prendre peut-être l'Eurostar ou un billet d'avion pour aller à Londres, au London Hendon Festival. Mm-hmm. Et je suis sur le site et je vois également qu'on peut consulter une autre page comme ça pour avoir peut-être davantage d'informations. Elle s'appelle cette page la handelhouse.de.
Donc, tu la mettras en lien sur le site.
C'est parce qu'on va aller aussi en Allemagne, à Halle, et puis aussi à Tel Aviv. Enfin bref, il y a une tournée qui
s'en sort. Concert international. Uniquement pour cette battle.
Oui. Donc tu sais, Gérald, j'apprécie beaucoup la fête de la musique, mais enfin voilà, nous recevons tout de même Franck Emmanuel Comte pour le concert de l'Hôtel Dieu, c'est pas un cercle d'amateurs éclairés. Enfin, il y a quand même.
C'est un cercle de professionnels internationaux.
Il y a quand même.
Pas peur des mots.
C'est ça. Il y a une grande qualité, une immense qualité. Vous étiez d'ailleurs en concert l'année dernière, la saison dernière à l'auditorium. Et là, pour le coup, on parlait de jauge à différents moments. Là, quand on parlait de la salle Sainte-Hélène ou les autres, l'auditorium, c'est 2000 places, je crois, c'est ça?
Au moins, oui.
Oui. Donc, c'était pour une ou deux soirées, je crois.
Oui, c'était pour deux soirées et autour de Mozart cette fois-ci, oui.
Et là, c'est bien, comme ça les Lyonnais peuvent savoir, enfin je pense que beaucoup le savent, mais peut-être pas tous. Donc, très bien, Radio Canu, une troisième fois, rend hommage, fait parler à ce concert de l'Hôtel.
Est-ce qu'on a un extrait de Porpora?
Non,
c'est pas grave.
Alors on va passer à un disque qui sort au mois de mars, donc là il est encore dans les fichiers de l'ingénieur son.
Alors on passe en mai. Ça a déjà été enregistré.
C'est enregistré. Ben, 200 mètres d'ici, au temple Lanterne.
Prise de concert toujours?
Mais non, une prise de studio.
Moi j'aime bien les prises de concert.
À Lanterne, mais bon, le disque, il faut attendre encore un peu. Voilà.
Prise de concert, s'il n'y a pas toutes les deux minutes.
Oui, mais elles sont bonnes, celles de l'Hôtel Dieu. Moi j'avais bien aimé la.
Il n'y a pas de tousseur.
Chitianel.
De tousseur.
Poursuis donc, achève.
Oui, alors Atlantico, on aura un extrait, Atlantico?
Non,
c'est pas grave. Alors Atlantico, c'est important parce que c'est une belle découverte pour ceux qui auront raté la version inédite de Pergolese, qui auront raté la musique persane baroque avec Marco Polo, ils pourront se rapatrier sur Atlantico, le baroque exubérant des partitions du XVIIe siècle conservées dans les cathédrales de Bolivie et du Pérou, influencé par l'Europe, où musique sacrée et profane, une fois de plus, se mélangent. Donc ça, on peut penser à notre cher ami Delgadillo Espinosa, la direction.
Mariana,
qui était venue ici, peut-être a apporté son petit zeste. De programmation.
D'exotisme aussi.
Et d'exotisme, dont toujours le chœur de l'Hôtel Dieu, le Guerne, viol de gambe, Musi au théorbe, Yuin Van Xuan au clavecin, et Pellegrini à la percussion.
Mardi 14 mai à 20h, redonné le lendemain aussi, mercredi 15 mai.
Toujours Théâtre Sainte-Hélène.
Oui.
Sur deux jours.
Oui.
À 20h, 14-15 mai.
Vous serez pas concerné ce jour-là, mais vous êtes à la direction artistique.
Voilà. Ouais, j'écoute dans la salle, sagement.
Et donc direction artistique ou même écoute dans la salle, ça marche comment? Vous préparez tout de même ce concert, non?
Non. Alors c'est une carte blanche donnée à Mariana, donc je ne sais rien de ce qui va se passer.
Vous n'avez même pas consulté les partitions qu'elle a pu avoir?
Non, absolument rien.
Chacun fait son truc.
Très très beau, magnifique relation.
Ce n'est pas une de vos spécialités en plus peut-être?
De
le baroque latino-américain.
Alors si j'ai déjà fait des programmes là-dessus, mais je suis évidemment bien moins spécialiste qu'elle.
Je n'ai pas l'émission en tête, l'émission 150 quand était passée Mariana, je peux retrouver ça d'ici
oui,
là.
On pourra la mettre en lien.
Ce que j'ai trouvé tout à l'heure sur le site, c'est les autres dates pour nous évoquions différentes tournées qui peuvent être faites. Et par exemple, Marco Polo s'est donc donné, nous l'avons indiqué au mois de février, s'est donné le mardi 5 à 20h au Théâtre Sainte-Hélène, et puis donc tournée quelques jours avant le 1er février au pôle culturel Agora,
à Limonest, c'est pas très loin ça.
Encore un peu avant aussi le 3 février à l'Embarcadère qui se trouve à Monceau-les-Mines,
donc c'est déjà plus loin,
ça reste la région. Le 8 février, donc là après le concert lyonnais, au théâtre Gaston Bernard à Châtillon-sur-Seine, et puis le 14 février Saint-Valentin, 1001 notes en Limousin, c'est dans le cadre d'un festival peut-être, c'est ça?
Oui.
1001.
Et de la même manière, le Handel et Porpora, vous l'avez indiqué tout à l'heure, et j'ai donné la date de Londres, mais il y a aussi une autre date, c'est ce fameux Handel Festival, enfin je ne sais pas quel titre il porte, le Handel Festspiel, ce sera le dimanche 9 juin à 11h. Vous voyagez, n'étiez-vous pas au Japon il y a quelque temps?
En Chine.
En Chine.
Le Japon, c'est l'année prochaine.
Ah, d'accord.
Ouais. Non, oui, on bouge beaucoup. De toute façon, on fait à peu près 60 concerts par an, donc, et dont seulement une douzaine à Lyon, donc les autres, ils sont forcément sur la route.
Gérald, est-ce
qu'on... Oui, alors, avant de terminer et de revenir à un premier extrait de Bach, puisque c'est quand même la date...
Oui, Pergolèse, il me semble, non ?
Pergolèse.
Ouais, Pergolèse.
Qu'est-ce que j'avais encore ?
Un extrait de Bach ou de Pergolèse. Enfin, ce sont les dates les plus proches qui nous attendent avec ce festival.
Ah oui, non.
Bach, c'est J'aimerais saluer quand même la qualité du travail des graphistes qui ont fait le dépliant et le magnifique livre, hein, on peut dire.
Livret, oui.
Livret, hein, très très beau. Qui s'appelle donc Midi Minuit.
Jeudi Midi.
Ah, jeudi Midi. Ouais, Midi Minuit, c'est autre chose. JeudiMidi.com. Donc Julie Cherki et Jean Combier. Je trouve que.
Alors, ouais, ça, c'est les photographes.
D'accord, les photographes.
Mais c'est un travail de collaboration entre photographes.
D'accord, parce qu'on se demande ce que c'est. On a une main avec une main de chef d'orchestre.
C'est la mienne.
À gauche. Ah, c'est en plus
ouais, c'est la mienne.
Ah, les photos. Avec la baguette du chef d'orchestre, évidemment. Ouais. Des lettres doublées avec une typographie originale en lettres dorées ou d'argent. Écrivent le mot alchimie sur trois lignes. Alchimie. Et derrière, on a une sorte de concrétion qui évoque à la fois des nuages, des formes, des efflorescences, de l'organique, de la tripe, de l'organe. On ne sait pas ce que c'est, on peut projeter plein de choses, y voir des visages, c'est une forme en transformation. C'est le propre de la chimie, de transmuer la matière pour qu'elle passe du liquide au gaz. Et ici, on a de la chance, du plomb en or.
C'est ça.
On aura fait à peu près le tour, donc il nous manque peut-être une dernière illustration, des petites annonces. Allez. Parce que je pense qu'on pourrait en rester là. Ou disons,
moi, je veux juste faire deux annonces, deux expos.
Et est-ce que nous libérons
avant qu'on finisse Pergolèse, alors
C'est ce qu'on va faire.
J'invite nos éditrices et nos auditeurs à aller voir deux expositions qui ne payent pas de mine, qui ne sont pas très médiatiques, moins médiatiques, peut-être moins réjouissantes que Corto Maltese, les masques japonais à la Confluence, et Bernard Venet, dont le vernissage est le 20 septembre. Au Musée d'art contemporain de Lyon. Il y a de nouveau des très belles expositions intéressantes, confidentielles, au Bal des Ardents, qui est une des meilleures librairies de Lyon. Ils ont réouvert la galerie. Et j'étais au vernissage, donc créer, c'est vivre deux fois. Nous avons une très très belle expo de dessin de monsieur Sébastien Lecoultre, que je vous invite à aller voir, qui maîtrise très très bien la pierre noire. C'est pas son premier métier, il travaille plutôt dans l'édition. Et là, il surprend avec quelques dessins vraiment magistralement travaillés. Vous allez reconnaître beaucoup de choses. Il y a de l'humour, il y a du sens, de la dérision. Il y a aussi de la profondeur. Et techniquement, il y a des choses très impressionnantes. Travail intéressant à découvrir. Et l'autre exposition. Donc c'est ouvert, l'expo, aux horaires de la librairie. Hein. Vous ne risquez pas de vous ennuyer, vu tout ce qu'il y a déjà à regarder. Plus l'exposition. Et vous avez une nouvelle exposition sur les traces à la prison Montluc. C'est une anthologie, un très beau catalogue. Donc l'histoire de la prison de 1921 à 2010. J'étais aussi au vernissage.
Avec et là, passage,
c'était
Moulin,
une nouvelle histoire à partir de graffitis, de traces laissées sur les portes de lieux emblématiques de la prison. Par exemple, il était temps, on apprend qu'à Lyon, ont été, pendant la guerre d'Algérie, guillotinés 13 membres du FLN qui étaient auparavant emprisonnés. On voit encore la place où était pendue la guillotine. Il y a, bon, c'est un peu glauque. Il y a des fraises. Il y a tout un parcours avec des loupes. On peut regarder d'anciens graffitis qui se mélangent. C'est l'histoire, comme m'a dit une guide de là-bas, elle s'est passionnée par la prison parce qu'une prison raconte la vie d'une ville, raconte d'une manière un peu triste et sinistre, mais raconte la vie des lieux, quoi. Et on voit ça pour la première fois, tout un éventail très intéressant sur l'histoire de cette prison.
Allez, moi,
mêle les histoires.
Les toutes petites annonces, puis après nous libérerons, quoique en fait on va tous partir ensemble, Franck Emmanuel. Vous allez nous indiquer quel extrait on va écouter, puis nous partirons ensemble. Nous parlons de l'auditorium tout à l'heure. Enfin, leur saison démarre à eux aussi. Il y a eu quelques concerts qui ont lieu auparavant, mais là le vrai démarrage de saison, c'est le 22 septembre à 18h et le dimanche 23 à 16h. Un beau programme autour notamment de la Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz. C'est le démarrage donc de la saison de l'auditorium. Tout à l'heure, nous parlions, c'est intéressant, Franck-Emmanuel, vous évoquiez avec les académies lyonnaises du 18e, c'est ça, non ? Mi-18e, donc les ancêtres de cette ONL. Une autre petite annonce, nous avions reçu Annabelle Gaspard il y a de cela quelques temps, c'était au mois de mai, l'émission numéro 165, pour parler de Dommage qu'elle soit une putain, de John Ford. La pièce est redonnée. Donc si vous l'avez manqué à ce moment-là, vous pouvez vous rendre les vendredis 5 octobre, samedi 6 et dimanche 7 au Théâtre du Gai Savoir. Et enfin, dernier point, Damien Gouy, on le recevra peut-être prochainement, il fait un spectacle autour de De Vos. C'est toujours des transitions peut-être un peu, mais Cocteau Molotov, c'est slamé avec des textes qui sont écrits par qui ? Par Cocteau Molotov, c'est ça ?
À partir du livre des merveilles de Marco Polo.
C'est ce que vous disiez.
C'est une modernisation des écrits de Marco Polo.
les mots. De toute façon, la radio, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est des mots et de la musique? Terminons. Alors, allez. Quel extrait? J'ai sous les yeux le Facutardeat qu'on n'a pas encore entendu, puis le Stabat Mater traditionnel, et je crois qu'on aura parcouru toute la programmation. Stabat Mater traditionnel, j'ai pas plus de renseignements, c'est la piste 9. Est-ce que c'est un extrait de...
Bah, ouais, oui, on peut écouter ça, du c'est CD. De la polyphonie napolitaine improvisée.
Très bien.
Ben, très bien.
Improvisée par nous.
Gérald, on en reste là, on en fait le générique de fin. Est-ce qu'on se dit à
la semaine prochaine? Pas moi en tout cas.
Pas sûr, non. Moi non plus. Peut-être.
Il faut aller voir des expositions pour après les chroniquer.
Parce voilà, il faut sortir. Hein. On se verra peut-être le 3 octobre. Pour, on ne sait pas encore le 3 octobre. Ben, peut-être Damien Gouy ou alors peut-être autre chose.
Moi, je serais peut-être Bernard Venet, justement.
Ah ben mince alors.
Mais on va préparer peut-être l'émission, on verra.
Peut-être de la Croix-Rousse, il y aura des choses. Si vous souhaitez voir Emmanuel Comte, derrière un pupitre, cela est possible. Mais si vous souhaitez le voir et discuter avec lui, sera également, vous l'autoriserez. Ce sera le vendredi 16 novembre, 18h30, bibliothèque de la Part-Dieu. Faut-il réserver ce genre de rendez-vous? Non.
Conférence musicale.
Vous serez accessible, oui, mais avant, pas pendant que vous parlez, ni pendant que vous jouez. Il faudra vous laisser. Avec, vous serez avec Raphaël, c'est ça, je crois, ou
Régnier.
Avec Régnier, je me trompe, je vois toujours le R, voilà. Il a un look, lui aussi.
C'est
il
ça.
A, il a, voilà. Auditeurs, nous en restons là. Écoutons le Stabat Mater traditionnel. Rendez-vous mercredi prochain. Il y a différentes émissions encore à venir aujourd'hui, dont notamment une première, Mayday, à 18h.
Ah bon,
le méga combi s'est terminé. Mais une nouvelle émission, voilà, 18h. Mayday, c'est la première tout à l'heure. Nous aussi, c'était notre première. Notre deuxième de saison, ce sera d'ici quelques temps. Merci beaucoup, Franck Emmanuel Comte.
Merci beaucoup.
On vous souhaite une heureuse
année,
saison.
Bonne programmation.
Et puis on se dit à bientôt, enfin oui. D'ici deux ans, deux, trois ans.
Voilà.
Merci encore. Restez à l'écoute de Radio Canut. Au revoir tout le monde.